Bonjour et merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Patara. Le nouveau numéro de la semaine est consacré à la division profonde constatée au sein de l'opposition démocratique. Nous avons un groupe de l'opposition dénommé Bloc Républicain pour la défense de la Constitution BRDC, considéré par le gouvernement de l'opposition systématique, et l'autre bord, c'est l'Union des forces démocratiques de l'opposition UFDO qui se veut opposition modérée et constructive. Ces deux groupes se lancent des fléchettes à l'approche des élections locales du juillet prochain. L'opposition n'est pas unanime, du moins elle est divisée face au pouvoir qui s'organise minutieusement. Plusieurs partis politiques ont connu ces derniers temps de scission au profit de la politique du MCU du président de la République, Faustin Alcantadira. Je cite entre autres le MLPC de Martin Ziguélé, le KNK de François Bozizé, le RDC de feu André Kolingba et bien d'autres formations politiques. Question, pourquoi l'opposition démocratique est-elle divisée face aux stratégies du locataire du Palais de la Renaissance? Le gouvernement a-t-il réussi de débaucher les leaders de l'opposition entre le BRDC et l'UFDO qui joue bien son rôle démocratique pour le peuple? Eh bien, durant près d'une heure de temps, oui, nous allons avec nos invités comprendre le pourquoi. Eddy Symphorien Kwarekoti, président du Parti pour l'Unité et la Reconstruction, membre de l'UFDO. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Maître Bruno Yacinthe Gbegba, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour aussi à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Avocat au barreau de Centrafrique, membre de la société civile centrafricaine, et à vous Raymond Adouma, bonjour.
Bonjour et salut à tous les auditeurs de Radio Ndikuluka.
Vous êtes membre du BRDC et ancien ministre. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Le débat, c'est tout de suite.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndikiluka.
D'entrée de jeu, l'actualité oblige. L'insécurité persiste dans les régions nord-ouest et du sud-est de la République centrafricaine. Nous avons déjà évoqué cette question la semaine dernière à Bozoum, capitale de l'Ouampéndé. L'on ne cesse d'accuser le laxisme du gouvernement quant à ce qui concerne la porosité des frontières de la République centrafricaine avec le Tchad et le Soudan. Messieurs, que craignez-vous concrètement si cette situation persiste? La parole à qui veut la prendre rapidement, Maître Gbegba.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
Oui, Armando.
Armando, je regrette, comme j'ai l'habitude de le dire, que pour un sujet aussi important, le gouvernement ne puisse pas être là. Parce que vous savez, l'insécurité dont nous dénonçons au niveau de nos frontières est due à l'incapacité du gouvernement de gérer cette sécurité. Vous voyez, depuis un mois, la situation au Soudan a démarré, l'affrontement. Les Soudanais descendent en République centrafricaine. Le gouvernement, sauf erreur ou omission de ma part, jusqu'à ce jour n'a pas encore fait un communiqué. C'est quelques temps après que le gouvernement va faire un communiqué laconique, mais il n'y a rien dans ce communiqué. Et aujourd'hui, c'est depuis des années que la frontière entre la République centrafricaine, le Soudan et le Tchad est tributaire de l'incapacité de tous nos gouvernements à protéger la population. Les Tchadiens rentrent sur le territoire centrafricain comme ils veulent. Les Soudanais rentrent comme ils veulent. Le gouvernement ne fait rien. Même le gouvernement est incapable d'organiser les commissions mixtes pour voir les problèmes frontaliers entre le Tchad, la République centrafricaine, le Tchad, la République centrafricaine et le Soudan. Et surtout qu'on a une force tripartite Centrafrique.
Au niveau d'Amdafok.
Voilà. Mais que fait cette force? Rien. Parce que cette force n'a pas de moyens. C'est un problème de manque de volonté politique. On a juste mis pour la forme, mais pour le fond, il n'y a pas d'activité. Et donc, les Soudanais rentrent en Centrafrique, ils font ce qu'ils veulent, alors que vous n'entendez jamais que les Centrafricains sont rentrés sur le territoire soudanais pour aller agresser les Soudanais. Mais vous entendez que les Soudanais sont rentrés plusieurs fois sur le territoire soudanais, ils ont tué les Centrafricains. Sur le territoire centrafricain, ils ont tué plusieurs fois les Centrafricains. Vous entendez que les Tchadiens sont rentrés plusieurs fois sur le territoire centrafricain, ils ont tué les Centrafricains. Et les rebelles, le comble, c'est que les rebelles tchadiens sont venus s'installer maintenant sur le territoire centrafricain, comme si la RCA, une partie de la RCA est devenue un no man's land que les Tchadiens voulaient presque annexer. Voilà un peu ce que je peux dire.
Monsieur Kwame Koti, sur la porosité des frontières centrafricano-tchadiennes, centrafricano-soudanaises, des voix ne cessent de dénoncer le manque de volonté, par exemple, politique pour sécuriser les frontières de la République centrafricaine avec ses voisins.
Merci Armando. Je pense que quand on parle de la sécurité ou de l'insécurité, il faut se poser certaines questions. Savoir qu'est-ce qu'on doit sécuriser à la frontière. Et quand on parle de la frontière, ça fait partie de la souveraineté, c'est-à-dire c'est le peuple centrafricain et c'est la République centrafricaine. Et si nos frontières sont en danger, c'est inquiétant. Et je voulais mentionner ici que celui qui est le responsable numéro un de la sécurité, c'est le chef d'État, Faustin Archange Touadéra. Et je pense qu'il y a des mesures à prendre quand il y a l'insécurité. Il y a des mesures diplomatiques, par exemple, quand les Tchadiens quittent leur pays pour venir tuer les Centrafricains en Centrafrique. Si on a nos forces sur place, ils pouvaient répliquer là, parce que c'est la guerre. Mais s'il n'y a pas nos forces et le gouvernement est informé après, je pense qu'il y a des démarches diplomatiques à suivre ou il y a des plaintes à porter par rapport à ça. Donc, comme je n'ai pas vraiment assez d'informations par rapport à ce sujet de l'insécurité, mais je sais que c'est très important et c'est inquiétant pour le moment parce que, vu ce qu'on écoute, le danger que nos populations sont tentées de faire face aujourd'hui, ça inquiète.
Oui, monsieur Adouma.
Merci, Armando. On se rend compte qu'effectivement que le responsable du gouvernement n'est pas parmi nous parce que ce gouvernement se fout entièrement de la gueule du peuple centrafricain. Excusez-moi de le dire ainsi. C'est un gouvernement tout simplement irresponsable qui ment à tout bout de champ. J'aimerais bien en avoir un responsable parmi nous ici de ce gouvernement qui a acclamé un peu partout que 80% du territoire sont sécurisés. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a rien de sécurisé finalement. Et puis, l'opposition a eu déjà, la vraie, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, a déjà eu à interroger le gouvernement sur le fait que des rebelles tchadiens sont formés sur le territoire centrafricain afin d'aller porter atteinte à la sécurité intérieure du Tchad. Et notre préoccupation de l'époque n'a pas trouvé de réponse. Et aujourd'hui, on est en train de vivre des faits. Ce qu'on redoutait hier se réalise aujourd'hui. Donc, il y a l'insécurité à la frontière tchado-centrafricaine en permanence. C'est devenu permanent. Et on n'arrive pas aujourd'hui à endiguer cela avec une pseudo-entente pour pouvoir lutter contre cette insécurité. Mais quand il y a une partie qui n'est pas très sincère dans cette démarche, la partie centrafricaine, je veux dire, on ne peut pas arriver vraiment à sécuriser cette frontière centrafricano-tchadienne. Donc, les faits sont là pour nous le prouver et nous allons continuer certainement.
Oui, mais la RCA est un pays fragile depuis près de deux décennies en matière de sécurité. Si le malheur de ce pays vient de temps en temps du nord-ouest et du sud-est, pourquoi cette affaire n'interpelle pas, selon vous, comme vous l'avez évoqué, le gouvernement? Parce que c'est la préoccupation, des préoccupations même du gouvernement et du président de la République, la sécurité.
Mais je crois que le gouvernement, ce gouvernement alimente cela à volonté, parce que cela le sert aussi. Je ne dirais pas qu'à un certain moment, ce gouvernement a dû faire recours à des éléments de émeti pour pouvoir assurer la sécurité au niveau de la frontière centrafricano-tchadienne, ce qui n'est peut-être pas élégant en matière diplomatique. Et même quand il s'agit d'insécurité, il faut voir l'irresponsabilité de notre gouvernement au regard de ce que les autres pays ont fait quand ils se sont préoccupés très tôt du sort de leurs ressortissants au Soudan. Nous, on a rien fait vis-à-vis de nos compatriotes qui étaient au Soudan au moment où ce conflit faisait rage déjà. Et donc, on a été aidés en cela par le Tchad, qu'on a souvent eu aussi l'occasion d'accuser que c'est le Tchad, et je dirais à tort, parce que c'est nous qui alimentions les sécurités ici en formant des rebelles tchadiens sur notre territoire. Donc on était souvent les premiers à crier aux voleurs, alors qu'on est, on est bien les voleurs. Donc on n'a rien fait effectivement pour nos compatriotes qui sont là-bas, mais le Tchad nous a aidés à évacuer certains de nos compatriotes qui étaient au Soudan.
Donc, maintenant,
sur tous les plans, moi, je ne vois pas le gouvernement prendre ses responsabilités. Et le gouvernement est entièrement responsable et doit dire la vérité, enfin, au peuple.
Nous ne pouvons pas, puisque, désolé, c'est difficile d'avoir un membre du gouvernement comme d'habitude ces derniers temps autour de la table pour évoquer cette question. Mais aujourd'hui, la question se pose. Les difficultés sont là, la porosité de frontières. Nous savons que l'armée, comme a dit le gouvernement, est en voie de reconstruction. Mais que faire aujourd'hui, Maître Gbigba, pour pouvoir sécuriser d'une manière stratégique ou bien selon la proposition que vous pouvez même faire aux autorités face à la situation actuelle?
Vous savez, M. Anguendi, c'est depuis des années qu'on nous parle de la reconstruction de notre armée. Nous allons la reconstruire jusqu'à quand? Chaque année, comme l'a dit mon voisin, on nous a dit que la RCA avait déjà sécurisé le pays à 90%. Si vous avez sécurisé le pays à 90%, ça veut dire que vous avez suffisamment reconstruit, pas totalement, mais suffisamment reconstruit l'armée. Mais on constate que c'est un tissu de mensonges et ça ne profite à personne. Il faudrait qu'on dise la vérité au peuple centrafricain. Lorsque vous savez qu'à chaque fois, à chaque période de pluie, il y a inondation, qu'est-ce que vous devez faire? Il vous faut absolument tout faire pour avoir des collecteurs qui puissent drainer l'eau facilement. Alors donc, nous savions que notre insécurité vient toujours de la partie nord-ouest, le Tchad et le Soudan. Le Tchad et le Soudan, tout le monde le sait. Alors, lorsque vous savez que c'est le nœud du problème, mais il faut dénouer. Vous devez prendre des responsabilités. Nous payons chaque mois le salaire à nos militaires. Nous payons chaque mois des salaires maintenant au Wagner. Mais attendez, ils sont venus pourquoi? Nous les avons fait venir pourquoi? Nous payons nos militaires pourquoi? Nous avions un ministère de la défense chargé de la restructuration. On doit restructurer quoi? On doit attendre quand pour restructurer? Il faudrait que les enfants qui sont aujourd'hui à la maternelle puissent aujourd'hui arriver à l'université pour qu'on finisse cette fameuse restructuration. Non, c'est un problème quotidien au même moment où les militaires travaillent, parce qu'il y aura une partie qui partira à la retraite, d'autres, une partie qui montera. Mais c'est un travail quotidien. Au même moment où vous êtes en train de le faire, d'autres partent, une partie arrive. Et c'est ce travail-là.
C'est toute une chaîne, non?
Voilà, c'est ce travail que le gouvernement n'arrive pas à faire. C'est pour cette raison que vous voyez, chaque fois qu'il y a des débats, ils sont incapables de venir se présenter devant le peuple. Alors qu'ils gèrent notre quotidien, ils gèrent notre vie. Notre vie est entre leurs mains. Notre vie n'est pas seulement entre leurs mains parce qu'ils doivent être dans les bureaux et consorts. Non, ils doivent produire les résultats. Et c'est ce que nous attendons. Ils ne peuvent pas constamment déserter les lieux des débats parce qu'ils se disent qu'on n'a pas de compte à rendre. Mais attendez, ils gèrent qui? Ils gèrent notre vie. Et c'est ce que nous déplorons. Donc aujourd'hui, le gouvernement, à part les déclarations de bonnes intentions sur la restructuration, il n'y a aucun acte positif que nous voyons sur le terrain.
On ne sait pas, puisque aujourd'hui, c'est difficile d'avoir les membres du gouvernement autour de la table pour en dire plus sur ce que vous avez dit.
Vous n'avez pas besoin de... Vous devez le vivre. Est-ce que ce qui s'est passé au Soudan, vous avez écouté le gouvernement faire un communiqué? Ce qui s'est passé au Tchad, est-ce que vous avez écouté le gouvernement communiquer? C'est lorsque RFI a posé la question au porte-parole du président, de la présidence, qu'il a répondu d'une manière laconique. Vous voyez, vous sentez même une gêne dans la réponse qu'il a donnée, parce que le gouvernement ne s'est même pas préparé. Lorsqu'une action comme ça, une telle action d'envergure se prépare, automatiquement le gouvernement doit annoncer. C'est 3 ou 4 jours après qu'on a interviewé le porte-parole de la présidence qui, je me répète, qui a répondu avec beaucoup de gêne. Voilà, donc, ça veut dire que ce n'était pas une action préparée.
On va écouter M. Parikoti sur cette question. Pour le site de nos frontières, le gouvernement est à pied d'œuvre pour restructurer l'armée, mais beaucoup reste à faire. Quelle est donc votre proposition dans ce sens?
Bon, ma proposition est que, vous savez, quand on parle de la sécurité ou la porosité de nos frontières, on ne voit pas seulement l'armée. C'est-à-dire il y a plusieurs aspects à voir. C'est-à-dire surtout l'aspect diplomatique. Comme vous venez de le rappeler que nos problèmes viennent toujours du Tchad ou du Soudan. L'objectif absolu d'un gouvernement ou d'un État, c'est d'atteindre le maximum de la sécurité et la quiétude de son peuple. Et si vous voyez, on n'arrive pas à atteindre ces objectifs de la sécurité, sécuriser nos frontières, c'est qu'il y a une faiblesse au niveau de la diplomatie centrafricaine depuis des années. Je voulais me rappeler que si vous voyez par exemple au Tchad, on a l'attaché militaire, on a l'ambassade qui est censée nous donner des informations même avant le problème. Parce qu'il faut prendre des précautions avant que cela arrive. Mais depuis des années, il n'y a pas de précautions par rapport à ça. Et je pense que je peux avoir une proposition par rapport à la diplomatie. C'est-à-dire à la diplomatie, nos attachés militaires, surtout renforcer la capacité de nos c'est-à-dire de nos attachés militaires dans nos ambassades, de leur donner ce qu'on appelle les moyens pour l'espionnage, parce qu'il faut faire l'espionnage même. Je pense qu'on a un consul au niveau de Niala qui peut informer même le gouvernement de tout ce qui arrive au Soudan avant que cela arrive dans nos territoires. Et quand c'est arrivé déjà dans notre territoire, je pense qu'il faut toujours des moyens intelligents et sages pour de ne pas être en erreur, parce que vous voyez, la guerre, c'est la loi. Il y a la loi pour la guerre, et nous vivons dans un monde qui est gouverné toujours par la loi. Même si quelqu'un te fait du mal, pour réagir, il faut suivre les procédures et les normes. Donc, ma proposition sera que le gouvernement doit mettre l'accent, l'accent surtout sur l'immigration, voir comment qui rentre et qui sort. Surtout, on ne partage pas seulement la frontière avec le Tchad et le Soudan, mais on a des tribus aussi. Il y a des tribus qui vivent en Centrafrique, qui vivent là-bas. Ces mêmes tribus peuvent rentrer et parler même sango et rester chez nous, créer même des problèmes chez nous. Quand ça chauffe, ils rentrent chez eux. Donc, je pense que c'est un problème qui est tellement ambigu à ce qu'il faut vraiment des études suffisantes pour donner une solution adéquate pour protéger nos frontières.
Oui. Vous voulez répondre sur la question, la proposition peut-être du BRDC face à ce qui se passe, face à la porosité de frontières et surtout à la sécurisation des biens et des personnes aux nouvelles frontières?
Pour le BRDC, c'est un constat d'échec de ce gouvernement. Et le BRDC se propose comme l'alternative nécessaire à la véritable construction de ce pays. Donc, quelqu'un qui a échoué, il doit se barrer et laisser la place à des vrais hommes politiques faire les choses sérieusement. Donc voilà, c'est tout simple. C'est tout simple.
Mais revenons, je pense que sur cette question, et justement, le pays connaît beaucoup de crises, la pénurie sans fin du carburant, l'insécurité galopante, la chérité de vie, la tension de trésorerie que vit le pays. Pourquoi, face à ces maux qui minent le pays, l'opposition démocratique, ou du moins la classe politique, n'est pas unanime pour lutter contre? Monsieur Adouma.
Je crois que le BRDC, par la voix de son porte-parole Adoja et même de plusieurs autres leaders également, nous avons déjà assez critiqué la manière avec laquelle le carburant est géré ici. Et nous avons vu cela venir depuis longtemps, parce que lorsqu'on commence à céder une société qui permettait à la République centrafricaine de transporter du carburant pendant la période de crue et de faire du stockage assez, quand on commence à brader cela sans suivre les règles de l'art, on devrait s'attendre à des complications déjà au niveau des formalités à faire pour pouvoir accéder au remplissage des cuves au niveau du Congo. Donc l'ancienne société qui était là avait un contrat avec Bolloré qui est au port du Congo, mais la nouvelle n'ayant pas encore cette convention-là, n'ayant pas encore signé de convention avec l'autre société, ne pouvait pas se fournir assez facilement en carburant pour pouvoir ravitailler les cuves ici. Et donc, on savait déjà qu'il y aura des problèmes de carburant, mais ça, le gouvernement devrait prévoir. Mais le gouvernement n'a rien fait en posant cet acte. Donc, c'est de l'irresponsabilité à tous les niveaux. Non seulement on ne sait pas que la population centrafricaine grandit et que les besoins augmentent, et que les anciennes cuves qui ont été installées il y a très longtemps ne pourront pas suffire à prendre en charge les besoins d'aujourd'hui. Ça, est-ce qu'on a besoin vraiment de faire des écoles supérieures pour le comprendre? Ma maman, qui n'a jamais mis les pieds à l'école, déjà le savait. Il savait prévoir. C'est-à-dire, quand on voit une population augmenter, on sait que les besoins augmentent et qu'on doit prévoir assez d'endroits pour stocker le carburant et surtout faire en sorte que le pays ne soit pas bloqué, même s'il y a des difficultés sur certains axes en termes de sécurité. Donc, on devrait déjà diversifier les points de stockage.
Mais cette question est internationale. La pénurie de carburant, ce n'est pas seulement la question.
Les problèmes ne se posent pas de la même manière. Nous ravitaillons à partir du Congo, nous ravitaillons à partir du Cameroun, et il n'y a pas de problème au niveau de ces pays-là. Et je crois qu'au Tchad, si le problème s'est posé, parce qu'ils étaient en train de faire l'entretien de leur structure de raffinage. Donc, les problèmes ne se posent pas de la même manière. Mais chez nous, effectivement, on n'a pas aussi des besoins si importants que cela. C'est-à-dire que la gestion du carburant ici ne devrait pas poser trop de problèmes, puisque les équations sont réduites en termes de variables. Mais on n'a peut-être pas assez de capacité mathématiquement pour pouvoir prendre ces équations en charge. C'est ça qui est bizarre. Ce sont des choses simples à gérer. Donc, encore une fois, la gestion du transport n'a pas été ce qu'il fallait, la gestion des points de stockage, on devrait prévoir déjà la construction, ça n'a pas été ce qu'il fallait, donc on est loin derrière de pouvoir endiguer cette situation qui va encore demeurer assez longtemps. Vous voyez même que même dans le domaine de l'enseignement, on n'a même pas construit de salle, même pas de l'amphithéâtre.
On va rester sur ce point-là, peut-être à la prochaine, on y revient. Oui, Maître Gigba.
Non, mais je suis totalement sidéré lorsque je vois qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, le 17 mai, le ministre de chargé de l'énergie a autorisé...
Arthur Bertrand Pirey
a autorisé l'importation, disons le transport des produits pétroliers. Comment est-ce que vous aviez une société comme Socatraf qui nous faisait 80% du transport pétrolier? On avait des difficultés, mais pas comme actuellement. Et vous osez maintenant faire disparaître cette société pour des raisons dont vous le savez. Et aujourd'hui, vous mettez le pays en difficulté.
Non, je ne comprends pas ce que vous voulez expliquer.
On fait disparaître Socatraf.
Mais Socatraf est encore vivant?
Non, mais attendez, est-ce que
Socatraf est là?
C'est un organe qui n'a plus de capacité, qui est maintenant là, vous voyez. Et je ne sais pas si vous avez lu l'instruction ministérielle du ministre Piri, qui autorise, alors qu'avant, est-ce qu'on en avait? Quand Socatraf travaillait à plein temps, on n'en avait pas. Et on a fait disparaître des activités de Socatraf, on a confié cela à un groupe fictif. Et aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Le prix du carburant, le carburant qu'on achetait à 800 francs, le gouvernement, pour des raisons que lui-même sait, nous a augmenté ça à 1300. Mais on n'achète pas le carburant à 1300. On achète quotidiennement le carburant à 1800, 1900, 2000. Parce que c'est la contrebande. Donc, en faisant disparaître Socatraf, c'est maintenant, ce sont les contrebandiers qui ont pris le relais. Et cette instruction du ministre Biri, c'est pour légaliser le travail des contrebandiers, afin que ceux-là nous desservent en nous vendant le carburant plus cher que dans les stations. Alors, au moment où nous sommes en train de débattre, sortez, allez dans les stations, il n'y a aucun carburant dans les stations. Et il n'y a que les contrebandiers qui vendent le carburant. Et ils vendent ça à 1800, 1900. Le prix officiel, c'est 1300. Le gouvernement fait quoi? Le gouvernement nous a livré. Et le gouvernement est même content que le prix du carburant grimpe. Vous voyez comment un gouvernement se comporte à l'égard de son peuple. C'est de l'irresponsabilité. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre.
Je rappelle toujours à nos auditeurs que nous avons tenté, comme d'habitude, plusieurs fois d'avoir quelqu'un du gouvernement pour répondre à certaines préoccupations. Stratégiquement, qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour rehausser le niveau, mettre fin à ce que vous le dites? C'est un peu difficile pour nous de vous répondre sur ce point.
Non, le gouvernement n'a rien prévu. Sinon, si le gouvernement a prévu quelque chose, c'est que le gouvernement a prévu de mettre la population centrafricaine en difficulté.
Mais vous le savez très bien que ce n'est pas même le rôle du gouvernement de mettre en difficulté son peuple.
Non, généralement, c'est un gouvernement responsable. Son travail, c'est d'aider au développement de son pays. Mais le gouvernement centrafricain, son travail, c'est de saper la morale des centrafricains. C'est de mettre le centrafricain en difficulté. C'est paradoxal. Vous voyez, comment est-ce que le prix du carburant, fixé à 1300, personne n'a accepté. Il n'y a pas de carburant dans les stations. Il y a du carburant dans la rue. Et le centrafricain est obligé d'acheter ce carburant-là à 1800, à 2000, parfois même à 2500. Le gouvernement ne réagit pas. Le gouvernement le comble. Le gouvernement va jusqu'à maintenant légaliser le travail des contrebandiers avec cette instruction du ministre Piri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement s'est engagé à mettre la population en difficulté.
Nous allons tenter, continuer comme d'habitude, à titiller le ministre de l'énergie ou bien le gouvernement pour nous donner beaucoup d'explications et, comme vous l'avez dit, pour la population et fournir beaucoup d'explications, de détails sur cette question. Monsieur Parikoti, la pénurie de carburant persiste. Et comme vous l'avez vu, vous l'avez constaté, c'est la population qui en fait le frais ces derniers temps.
Oui, exactement. Vous savez, la pénurie de carburant, malgré qu'elle est universelle, comme on venait de dire, mais elle est très, très, très mal gérée en République centrafricaine. Donc, je pense que le ministre de l'Énergie, il a enregistré vraiment, je peux dire, de l'incompétence dans ce domaine. Parce que vous savez, le carburant, c'est la vie. C'est grâce au carburant que tout marche dans un pays. On ne voit pas seulement le véhicule ou les taxis ou le déplacement des Centrafricains, mais la vie d'une manière générale dépend du carburant. Et si cette pénurie est mal gérée et ça persiste, je pense que le ministre de l'Énergie, au lieu de citer le gouvernement d'une manière générale, il a marqué ce qu'on appelle de l'incompétence dans ce domaine. Donc, je pense qu'il
c'est,
est...
Vous l'avez dit, c'est une question générale. Ce
non,
n'est pas
c'est,
seulement
c'est
son
universel,
problème.
Mais ici, en Centrafrique, elle est très mal gérée. Je pense que la crise, elle est universelle, mais chaque pays ou chaque État gère de sa manière. Mais en République centrafricaine, si ça persiste, je pense que plus de 8 mois, les Centrafricains ont ce problème. Et si même vous sortez aujourd'hui, vous verrez que dans des stations, il n'y a pas de carburant. Et pourquoi ? Ça prend combien de temps pour importer le carburant, que ce soit dans les pays voisins, pour que ça arrive ? Donc je pense que ça, on peut noter ici de l'incompétence du ministre de l'Énergie. Et je pense qu'il doit prendre de plus vite possible des mesures pour répondre vraiment à ce problème, parce que ça persiste déjà.
L'autre point de l'actualité et surtout de ce débat, c'est qu'il n'y a pas d'unanimité entre vous, ceux de la classe politique centrafricaine, même si certainement chacun ou bien tout le monde ne doit pas avoir une même vision, ne doit pas avoir une même pensée, mais il y a des questions d'ordre général, de sujets d'intérêt public, mais c'est un peu difficile pour vous, hein, de l'opposition ou bien de la classe politique, d'être unanime pour gérer, proposer des solutions, parler pour aider la population à aller de l'avant. Pour quelles raisons?
Oui, mais ce problème, il est traditionnel, je peux dire. Comme vous venez de citer ici, il y a UFDO, Union des Forces Démocratiques d'Opposition, et il y a BRDC. Moi, je suis membre de UFDO, que je viens de signer notre adhésion. Et je pense que UFDO est une plateforme des partis politiques et personnalités politiques en République centrafricaine qui se sont réunis pour pouvoir défendre les intérêts du peuple centrafricain, et je suis cofondateur. Vous savez, après le dialogue républicain, je pense que tout le monde connaissait ce qui s'est passé. La classe politique est divisée. Donc, quand j'ai appris à travers les médias et tout ça qu'il y a d'autres classes politiques qui ont pris part au dialogue républicain et les autres ont refusé de prendre part, directement j'ai appelé le président Gonda, le feu président Gonda, pour lui faire savoir qu'il m'a expliqué exactement ce qui s'est passé. Et après, je l'ai proposé. Parce que ce dialogue républicain a été crédité et accepté par la communauté internationale et par tout le monde. Donc ce qu'on devait faire, c'est de mettre en place une plateforme d'opposition post-dialogue républicain. Et ce qui a été fait, c'est UFDO. Et si vous parlez aujourd'hui de BRDC, c'est Bloc Républicain pour la défense de la Constitution, qui est aussi une plateforme pour défendre la Constitution. Je pense que chacun a choisi sa branche de lutte. Nous, on a choisi de défendre la démocratie. Notre frère ont choisi de défendre la Constitution. Je pense que c'est leur manière ou c'est leur lutte choisie. Et si le président Touadéra arrive aujourd'hui à changer la Constitution, je pense que BRDC ne doit pas exister. Ou si le président Touadéra dit aujourd'hui que je ne veux pas changer la Constitution, je pense que cette plateforme ne doit pas exister. Donc pour moi, BRDC n'est pas une plateforme d'opposition. Et ils ont choisi de défendre la Constitution. Donc je pense que c'est une bonne lutte. Donc donner l'impression aujourd'hui que la classe politique est divisée, je ne pense pas. La classe politique n'est pas divisée et c'est la lutte de l'UFDO pour réunir toute la classe politique, parce que nous sommes en train de faire face à un gouvernement qui est le gouvernement du président Touadéra. Je ne pense pas qu'est-ce qui va nous diviser. Il faut se poser des questions parce qu'on a les mêmes luttes d'opposition, on a les mêmes idéologies, je pense. Mais si ceux-là ont choisi de défendre la Constitution, mais nous, c'est la démocratie. Je pense que la Constitution est un principe de la démocratie. Donc, moi, personnellement, je sais que la classe politique n'est pas...
Ça vous avez dit, ça c'est mais dans la pratique, on sait, et la représentation africaine, les centrafricains le savent aussi que la classe politique centrafricaine, à l'ère où je vous parle, est divisée sur beaucoup de sujets.
Exactement, c'est ce que BRDC donne comme impression, parce que même dans leur communiqué, ils s'attaquent à UFDO. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne peux pas répondre peut-être
mais
comme
puisque, voilà.
Adouma est là, il peut nous dire pourquoi ils s'attaquent à l'UFDO.
Monsieur Adouma, classe politique centrafricaine divisée beaucoup plus l'opposition face à la politique du président Touadéra. Pour quelles raisons?
Merci pour cette occasion qui nous est offerte pour permettre au peuple centrafricain de comprendre la réalité de ce qui se dit au UFDO, Union des Forces Démocratiques de l'Opposition, qui n'en est pas une, qui est juste un marchepied pour le MCU. Parce que je vais retracer très, très brièvement l'historique de la création de cette plateforme. Cette plateforme est constituée de gens qui ont trompé, ça c'est leurs habitudes.
Qui ont trahi ou
qui
bien
ont trahi,
qui...
voilà.
Ils ont trahi.
Ils ont trahi la COD 2020 d'ailleurs. Et si vous voulez savoir un peu comment l'UFDO a été créé, l'UFDO est né des gens qui ont trahi à la fois la COD 2020 et toute l'opposition élargie. Parce que pour aller au dialogue politique, donc on a la COD 2020 qui regroupe encore, parce que c'est une plateforme qui existe encore, qui regroupe un certain nombre de partis politiques de l'opposition, et les autres, c'est-à-dire le MLPC, Patrie et autres qui n'étaient pas dans la COD 2020. Mais nous nous sommes dit, pour aller à ce dialogue, nous sommes tous de l'opposition, nous devons parler d'une seule voix. Donc nous sommes tous mis ensemble pour pouvoir préparer la participation de nos partis à ce dialogue. Et lorsqu'on a envoyé des représentants à la commission préparatoire de ce dialogue, et nous nous sommes rendus compte que le pouvoir a commencé à les démarcher afin de nous détourner de notre voie, parce que ce que nous voulions pour ce dialogue, c'était un dialogue inclusif, c'était un dialogue qui devrait permettre à tout le monde, toutes les sensibilités politiques et autres, de s'exprimer et de trouver de véritables solutions à la sortie de crise de notre pays. Et donc nous, nous voulions travailler pour l'intérêt du pays, pas pour nos intérêts à nous. Mais ceux qui ont quitté au dernier moment la COD 2020, disons l'opposition élargie, parce qu'on leur a clairement dit que nous ne devions pas participer à ce dialogue qui ne répond pas aux critères qui permettra à ce pays de sortir de la crise, où tout le monde pourra vraiment donner son point de vue au cours de ce forum. Lorsqu'on savait que c'était un dialogue qui était seulement destiné à aller dire à toi, Dera, bon, tu peux changer la constitution parce que c'est le principal problème qui a été débattu là-bas. Ce n'était plus pour les intérêts du peuple. On est allé poser un problème qui ne préoccupait pas les centrafricains, c'est-à-dire la question du mandat là-bas, du président, donc un troisième mandat. Donc il fallait faire légitimer cela par le dialogue. Et donc nous ne voulions pas de cela. Et donc ceux qui ont créé l'UFD, ce sont ceux qui ont voulu maintenant aller à la mangeoire du MCU. Parce qu'il n'y a pas dans aucun pays du monde une opposition qui se dit constituée, c'est-à-dire qui co-gère avec le gouvernement, avec le régime en place. C'est-à-dire qui lui fait des propositions. Ça, c'est ce que ça veut dire. Mais quand un régime est installé, il a sa majorité, il gère avec sa majorité. Et il y a l'opposition qui est là pour critiquer, mais pas pour donner des idées à ce gouvernement pour pouvoir gérer son pouvoir. Parce que les idées, ça se gère au niveau de l'Assemblée également. Les propositions de loi et les projets de loi se gèrent au niveau de l'Assemblée. C'est là où il y a la participation un peu de tout le monde pour pouvoir faire améliorer les textes. Mais il n'y a pas un autre groupe de soutien à ce gouvernement qui se dit opposition constructive. Ça c'est du jamais vu. Si vous avez, il y a un exemple
Il y a la plateforme BOCO aussi, hein, qui soutient les actions du gouvernement.
La plateforme de
la majorité présidentielle.
Mais ce n'est pas une plateforme de l'opposition.
Non.
Donc l'UFDO a été créé pour s'opposer à la COD 2020 et
au BRDC.
Non, pas au BRDC. Le BRDC n'était pas encore né. Justement, c'est pour qu'ils le comprennent. Le BRDC n'était pas encore né quand ils sont sortis de la COD 2020 et des autres partis de l'opposition qui faisaient partie de l'opposition élargie. Donc, l'opposition élargie, c'était la COD 2020 plus le MLPC, plus le Patrie et autres. C'était cela avant.
Et donc, vous réclamez de l'opposition démocratique pure et simple.
Mais oui, nous sommes de l'opposition démocratique. Et donc, c'est quand ce problème de troisième...
Usurpation de titre.
Non, c'est quand
c'est très grave
quand
ce que vous dites là.
Ce problème de troisième mandat s'est posé, c'est là où on a mis en place le BRDC pour nous opposer à ce troisième mandat. Donc, c'était ça le rôle du BRDC qui prend en compte aussi la COD 2020 et tous les autres partis qui ne faisaient pas partie de la COD 2020 et également la société civile qui travaillent pour l'intérêt du peuple centrafricain. Donc le BRDC, ce n'est pas seulement constitué de partis politiques, c'est constitué de partis politiques de l'opposition véritable et des membres également de la société civile.
Oui, donc vous voulez répondre.
Non, exactement.
L'UFDE est constitué de simples personnalités, pour la plupart, et des partis poids plumes avec des responsables que nous connaissons dans la tradition, qui sont rompus dans la tradition, qui, comme l'a dit un jour le président Boligumba, pour certains, qui constituent des accidents politiques, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans la politique pour leurs propres intérêts. Et c'est comme ça que le peuple, parfois, pense que les partis politiques sont là pour leurs intérêts. C'est pour ce genre de personnes qui ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple centrafricain, mais quand ils ont leur situation personnelle en difficulté économique, ils y vont pour chercher leur gagne-pain. Voilà.
Vous répondissez, monsieur, par écouter sur la question de l'UFDO. Est-ce que l'UFDO se réclame de l'opposition? Vous avez dit de démocratique, mais lorsque vous vous mettez du côté, par exemple, là pour proposer au gouvernement, au président de la République, ce qu'il doit faire, vous dites opposition constructive, est-ce que vous participez déjà, comme a dit monsieur Adouma, à la gestion de l'État avec le gouvernement?
Bon, je respecte la compréhension de nos frères de BRDC. La manière qu'il qualifie UFDO comme une plateforme d'opposition créée par le président Touadéra. Et je voulais confirmer et réaffirmer au peuple centrafricain que cette plateforme est une plateforme d'opposition pure et simple, comme prévu par la Constitution de la République centrafricaine. Donc nous sommes là pour défendre les intérêts du peuple centrafricain et s'opposer à toute mauvaise gouvernance qui sera enregistrée par le gouvernement du président Touadéra. Donc, on doit corriger vraiment cette pensée que l'UFDO n'aura aucune pression, que ce soit du gouvernement, que ce soit de qui que ce soit.
Bon, vous dites constructive, pour quelle raison?
Quand on dit constructive,
opposition constructive,
partout dans le monde, l'opposition doit être constructive. Constructive, ça veut dire de ne pas accompagner le président dans ses inéries ou dans sa mauvaise gouvernance. On doit construire notre pays aux intérêts de nos peuples. C'est-à-dire, si le gouvernement prend des décisions qui scient aux intérêts de la nation, qui scient aux intérêts du peuple, nous, on doit l'accompagner. On doit lui donner des propositions par rapport à ça. Si le gouvernement marque de l'incompétence, comme je venais de dire, par rapport à la pénurie du carburant, c'est pire, c'est un membre du gouvernement. Je viens de dire qu'il a enregistré de l'incompétence vis-à-vis de la gestion de cette pénurie. Donc, la manière de comprendre la politique, je pense que ça se diffère, tu vois, des gens et les autres. Mais tout ce que vous venez de dire, que la trahison, moi je pense que...
Ceux qui sont à la base de la création de l'UFDO
étaient
de la COD 2020 et on a tous été contre la politique de Touadéra. Les déclarations que nous avons faites existent. Alors c'est ce même Touadéra qui existe en plein là.
Laissez-moi parler. Laissez-moi parler.
Mais qui n'a pas changé de politique. Qu'est-ce qui vous a flatté pour changer?
Laissez-moi
parler.
Allez-y, vous
y allez. Votre présentation, vous avez été une fois ministre dans ce pays et je respecte et je vous parle avec beaucoup de respect. Donc évitez
de
m'arrêter quand je parle. Vous venez de parler de...
Vous m'aviez arrêté tout à l'heure, je n'en ai pas fait une montagne.
Vous avez parlé de la trahison. Vous savez, moi, j'ai intégré les plateformes d'opposition depuis la transition. Vous savez, les codes 2020. Les codes 2020 ont trahi Ezingo Biani à l'approche des élections. Donc, si on veut parler de la trahison ici, c'est trahison sur trahison. Moi, je peux vous dire...
Je vais vous répondre après.
Non, vous ne pouvez pas me répondre, j'étais là.
Non, mais puisque c'est
quand moi... Vous ne pouvez pas me répondre.
C'est moi qui étais à l'origine de la création d'Ezingo Biani.
Moi, je suis membre de Ezingo Biani et je ne suis pas membre de Code 2020.
Et vous savez comment Ezingo Biani était créé?
Mais c'est Anissé Doleguele qui nous a proposé et j'ai écrit une lettre, j'ai même sa lettre avec moi.
Oui, demandez-moi comment ça a été créé. C'est le Conseil des leaders politiques et sociaux...
C'est moi qui dois vous informer comment Ezingo Biani comment
puisque c'est moi qui ai conduit la délégation.
Voilà, vous êtes.
C'est moi qui ai conduit la délégation pour aller voir le groupe de travail de la société civile afin de créer Ezingo Biani.
Vous venez de parler. Laissez-moi parler.
Allez-y, gagne du temps.
Parce que si vous employez des mots, je pense que vous pesez pas ces mots-là. Quand vous parlez de la trahison, qui a trahi qui pour qui? Parce que même Code 2020 s'était créé par la trahison. Ils ont trahi Ezingo Biani pour aller créer Code 2020. Et aujourd'hui, si les membres, certains membres, je parle de certains membres de UFDO, ont trahi Code 2020 pour créer UFDO. Ça vous gêne en quoi, par exemple? Ça vous gêne en quoi que les autres créent leur propre plateforme d'opposition et se disent opposition constructive? Partout dans le monde, moi je vis en Tanzanie, c'est le gouvernement qui nourrit les opposants. Partout, même en Europe, la subvention, donner même créditation, donner même tout ce qu'on a fait, la force même aux élections. C'est le gouvernement qui donne la subvention aux partis politiques d'aller aux élections. Quand vous parlez de mangeoire, c'est pour dire que vous injurez les autres et vous devez enlever ce mot-là. Quand vous faites face à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ne cherchez pas à employer des mots.
On ne va pas aller faire un débat.
Je voudrais clarifier la situation par rapport à Ezingo Biani. Je rappelle à M. Parakouti que c'était le conseil des leaders politiques et sociaux. Et c'est moi qui en étais le gestionnaire. Vu la gravité de la situation du pays, donc la situation du pays s'est dégradée, j'ai proposé que nous allions rencontrer le groupe de travail de la société civile pour faire un combat commun, parce que c'était un combat pour le peuple. Et donc c'est moi qui ai conduit la délégation. Et lorsque le groupe de travail de la société civile partageait les mêmes avis, nous avions créé Ezingo Biani, qui a été coordonné par la société civile à l'époque. Et moi, j'étais vice-coordonnateur. Et nous avons donc mené un combat jusqu'à un moment où nous devions aller aux élections. La société civile ne va pas aux élections comme les partis politiques. Et donc, c'est à ce moment-là, nous sommes dit, attention, nous allons aux élections maintenant. Donc, nous n'allons pas garder Ezingo Biani. Nous allons maintenant créer un groupe de l'opposition pour aller aux élections, pour avoir un front uni hein? Pour aller aux élections. Parce que si vous lisez bien les textes sur les partis politiques, ce n'est pas la société civile qui organise des gens pour aller aux élections. Si vous ne le savez pas. Mais je vous renvoie à la lecture
Monsieur,
des textes.
Vous êtes en train de donc, nous expliquer ce qui n'aime pas
aller aux élections.
Pour aller aux élections,
Donc, On a, et c'était déjà dans le plan de travail de Ezingo Biani. Comme vous n'étiez même pas dans le bureau, vous le savez peut-être, vous participez même très peu aux activités à l'époque. Donc, on avait déjà cela dans le plan de notre travail, que Ezingo Biani s'arrêterait avant que nous n'allions aux élections. Et d'ailleurs, même bien avant cela, comme vous ne participez pas assez aux activités, on faisait déjà des réunions des partis politiques membres de l'opposition, membres de Ezingo Biani, à part pour accorder certains violons au niveau politique, pour les questions politiques, pour ne pas mêler la société civile à ça. Parce qu'il y a des questions politiques que nous devions régler politiquement. On faisait déjà des réunions à part pour cela. Et donc, on préparait déjà l'arrivée de la COD 2020.
Voilà, vous avez pris votre mal en patience pour suivre le débat. Voilà, vous représentez la société civile ici. Vous avez vu, nous avons évoqué la question de division au sein de la classe politique centrafricaine et surtout au sein de l'opposition démocratique sur certaines questions qui engagent la vie de la nation, comme l'insécurité, comme la pénurie des carburants, etc. Sur ce point, vous avez vu, est-ce que avec tout ce que nous voyons, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour permettre à l'opposition de jouer son rôle en tant que tel dans ce pays démocratique?
Vous savez, M. Armendo, il y a les paroles et les actes. Et donc, les actes doivent suivre les paroles. Lorsque vous dites que vous êtes de l'opposition, vous devez poser des actes qui suivent vos paroles. Et la population va comprendre.
Et selon la loi?
Non, mais c'est la loi, oui. Mais parce que nous sommes dans un système démocratique où il y a la majorité qui gouverne et l'opposition qui doit jouer son rôle. Et maintenant, au-delà de tout cela, il y a l'intérêt national. Quand il y a un problème d'intérêt national, comme on venait de constater, la carence, sinon l'incompétence du gouvernement centrafricain à gérer ce problème de carburant. Parce que ce problème de carburant génère d'autres problèmes. Vous voyez, quand le carburant coûte cher, les produits alimentaires, le transport, vous voyez, c'est comme si vous ouvrez la porte et maintenant tout le monde sort.
Oui.
Voilà. Donc, quand vous dites que vous êtes de l'opposition, nous, la population, parce que je suis de la société civile, vous dites que vous êtes de l'opposition, Mais ce n'est pas ce que vous dites qui nous intéresse. Ce sont les actes que vous posez qui vont nous permettre de savoir si réellement vous êtes de l'opposition. Vous pouvez dire que vous êtes de l'opposition. Mais si vous êtes chaque jour, vous faites la messe, comme on le dit, vous faites la messe de minuit avec la majorité pour ne pas jouer votre rôle. Vous êtes quelle opposition? L'opposition doit jouer son rôle. Faire des propositions et dire au gouvernement, critiquer les actions du gouvernement et faire ses propositions. Mais le débat entre l'UFDO et
BRDC,
la population n'a pas à s'intéresser à cela. Ce qui intéresse la population, ce sont les actes que les dirigeants de ces groupements dits de l'opposition posent. Sinon, à quoi ça sert de venir devant la radio dire « je suis opposant » mais quand on vous voit dans le quotidien, vous ne ressemblez même pas à un opposant par vos actes. La population va se moquer de vous.
Mais sur cette question, hein, le gouvernement a-t-il réussi de débaucher les leaders de l'opposition? Parce que quand on voit ce qui se passe, et bientôt il y aura les élections municipales, locales, en République centrafricaine, mais si l'opposition est divisée face à la stratégie du président Touadéra et de son gouvernement, certainement il faudrait que les gens s'attendent à ne pas aussi créer, par exemple, des revendications sur revendications après.
Vous savez, le mouvement dans les partis politiques, vous quittez la majorité pour aller dans l'opposition, vous quittez l'opposition pour aller dans la majorité. C'est le mouvement quotidien et normal des partis politiques. La plupart de ceux qui sont opposés aujourd'hui au président Touadéra, si je cite le Patri, le MLPC, le CRPS, mais c'était tous, quand on sortait des élections de 2016,
oui.
C'était tous des
partis de la grande majorité.
C'est pour cette raison que le pouvoir a débauché. Quand en 2018-2019, ils ont voulu sortir de la majorité, c'est là où le gouvernement a débauché la plupart des députés. Parce qu'effectivement, ce qui est gênant RCA, c'est que les gens militent dans les partis politiques, pas par conviction. Ils militent par nécessité. Donc, la plupart, vous voyez, un parti politique se crée, le parti est dans la majorité, le parti envoie la personnalité au gouvernement, le parti, l'organe du parti décide de retirer cette personnalité démissionne de son parti. Ça, c'est quelle image, vous voyez? Alors que quand le parti l'envoyait au gouvernement, il avait accepté. Et maintenant que le parti dit « je me retire de la majorité pour être dans l'opposition », cette personnalité se retire. Donc, vous voyez, aujourd'hui en RCA, ce qui est gênant, c'est que nos hommes politiques n'ont pas de conviction. Ce sont des nécessiteux.
Oui, on vous écoute, monsieur Padekoti, sur cette question, l'UFDO, division, et puis le débauchage, comme ça se dit, de certains leaders d'opposition pour le compte du pouvoir.
Je pense que l'UFDO ne travaille pas pour le compte du pouvoir, et je répète plusieurs fois pour que les gens puissent comprendre que l'UFDO est une plateforme d'opposition constructive, et je venais d'expliquer que on doit construire ensemble avec le gouvernement ce qui a construit pour les intérêts de notre peuple et les intérêts suprêmes de la nation. Et faire des propositions, parce que la démocratie est un combat d'idées, est un combat de propositions, est un combat d'arguments. Ce n'est pas un combat de violence. Donc je pense que c'est le chemin que l'UFDO a choisi comme une plateforme d'opposition. Et quand on dit que c'est le président de la République qui divise les partis d'opposition, je pense que je ne suis pas encore informé sur ces sujets. Mais là, je confirme et j'informe le peuple centrafricain d'une manière générale, comme Maître venait de le dire, on voit le maçon au pied du mur. Donc nous sommes là, une plateforme d'opposition. On va faire notre preuve. On doit défendre les intérêts de la nation et je pense que à travers l'UFDO, je pense que la classe politique centrafricaine doit tous se réunir auprès d'une table un jour et discuter et voir comment on va faire face au président Touadéra. Ça ne sert à rien aujourd'hui de dire que les autres sont en train de chercher à manger, les autres sont partis voir le président par-ci, par-là. Mais quand eux, ils voyaient le président, c'était pour chercher là où dormir ou c'est pour aller chercher des femmes ou c'est pour aller chercher quoi? C'est toujours chercher à manger ou quoi? Je ne sais pas.
Oui, monsieur Adouma.
Oui, l'opposition ne parle que d'une seule voix, la vraie. Et on ne peut pas avoir des opposants qui contribuent
à la bonne marche de la politique du gouvernement. Ça n'existe pas. On a une opposition qui cherche à prendre le pouvoir. Pour, si les gens de l'UFDM le savent, chaque parti politique existe pour prendre le pouvoir. Où tu es dans le pouvoir, tu participes à la gestion, dans la majorité, tu participes à la gestion du pouvoir. C'est une manière de gérer le pouvoir. Où tu es dans l'opposition et tu cherches à prendre le pouvoir. On ne peut pas être dans l'opposition et accompagner celui qui est là à demeurer. Sinon, il va prendre le pouvoir quand ? Ça, c'est... Il faut au moins que vous ayez la culture politique. C'est ça notre grand, grand problème. Et c'est ce qui fait que la population ne comprend pas, parce que c'est un positionnement flou qui n'existe même pas dans les textes de la République. Moi, j'ai bien envie de faire une école politique à ces gens qui sont dans une opposition qui ne devrait pas exister. C'est lamentable, vraiment. Essayons d'afficher des comportements responsables. Où on est de l'opposition, où on ne l'est pas. C'est A ou B. Il n'y a pas de milieu. C'est comme ça.
Vous avez fini. Oui, vous avez encore moins de 50 secondes pour compléter.
Et moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ce que mon co-débatteur vient de dire. Moi, je suis à la conquête du pouvoir. Je pense que j'ai créé un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Et si je suis président aujourd'hui, je dois construire la République centrafricaine sur le succès de mon prédécesseur. Peut-être c'est après toi, Dira, c'est moi qui sera le président, on ne sait jamais. Je ne peux pas venir dire que tout ce qui a été bien fait par le président toi, Dira, je dois détruire pour recommencer à zéro. Non, on construit toujours sur le succès, sur le modèle de son prédécesseur. Donc c'est ce but-là qu'on veut construire ensemble, ce qui est à l'intérêt de notre peuple.
Maître Gbigba.
Ça, vraiment, je prends le président Parikouti Rumo quand il dit qui se prépare à l'opposition, j'attendais de voir la position de l'UFDO par rapport à la révision de la Constitution pour faire durer éternellement le président Touadéra au pouvoir. Parce qu'effectivement, c'est l'une des raisons, ou bien c'est le fondement même de la démocratie. Mais si vous êtes d'une opposition et que vous soutenez la révision de la Constitution pour que le président Touadéra
reste... Ils n'ont pas été clairs.
Il y a déjà des personnalités de l'UFDO, je n'ose pas citer, qui ont fait même une déclaration pendant la rentrée politique du MCU mois d'avril passé, qui ont demandé d'aller au référendum. Mais quand on demande d'aller au référendum, on est en quel genre d'opposition ? Ça veut dire qu'on veut... c'est ce que je disais, ce sont des opposants qui ne sont pas convaincus de la politique, mais ils utilisent juste la politique pour un positionnement.
Voilà. Et c'est la fin. Je vous en prie, M. Parikouti, vous voulez rebondir ?
Non, je vous remercie.
Voilà, on ne peut pas aller de rebondissement en rebondissement. Vous allez trouver une autre occasion prochainement. Ainsi prend fin Patara, le débat politique de Radio Ndekeluka de cette semaine. Nous avons avec nos invités parlé de soucis majeurs de la population centrafricaine qui est l'insécurité persistante et galopante dans le pays et la division profonde de la classe politique sur des sujets d'intérêt public. Vous avez certainement, chers auditeurs, compris l'enjeu de cette émission politique d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été des nôtres tout au long de cette discussion démocratique. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Mais surtout, prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. Bon week-end. Je vous aime bien. À la prochaine.